Aujourd'hui, dans Game of First, je vous propose un entretien avec Pierre Charbonnier, que je remercie d'avoir bien voulu se plier à l'exercice. Pour rappel, il est docteur en philosophie, il travaille comme chercheur pour le CNRS et il est spécialisé en philosophie des sciences sociales. Donc, ça veut dire qu'il travaille sur les concepts produits par les sciences sociales. Dans ce grand ensemble, il s'intéresse aux sciences sociales lorsqu'elles touchent à la question de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Il a d'abord travaillé sur les thèses de l'anthropologue Philippe Descola, à qui on doit l'ouvrage « Par-delà nature et culture ». Dans son nouvel ouvrage « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques », qui est la publication du travail qu'il a réalisé pour obtenir son HDR, il propose une nouvelle voie à l'écologie politique. Cette nouvelle voie consiste à décorréler le concept de liberté de celui d'abondance, et donc à reconcevoir le concept de liberté pour qu'il en vienne à intégrer le caractère nécessairement matériel des vies humaines. Pour défendre cette idée, il s'appuie sur un travail d'histoire des idées et il retrace l'émergence, au cours de l'histoire, d'une conception de la liberté comme émancipation à l'égard des contingences naturelles, comme une disparition, camouflage plus ou moins réussi de celle-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son argumentation ici, et je précise, pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo précédente de présentation du livre, que vous y trouverez plus de précisions. Le but de cet entretien n'est donc pas de répéter le livre, mais de chercher à mieux le situer et d'en relever quelques points qui ont été l'objet de questions. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux commencer par me retracer le cheminement théorique que tu as fait pour en venir à soutenir les thèses que tu soutiens dans ton nouveau livre, donc Abondance et Liberté? Est-ce que c'est l'étude des sciences sociales qui t'a amené au questionnement d'écologie, ou bien est-ce que c'est un intérêt particulier, personnel peut-être, pour l'écologie qui t'a amené à étudier les sciences sociales par cet aspect?
Alors, merci pour cette première question, puis merci de me recevoir pour effectivement redévelopper et peut-être clarifier certains éléments de mon travail. Alors d'abord, oui, bon, d'où je viens. Je suis le produit extrêmement conventionnel du système universitaire, on pourrait dire méritocratique français, vraiment dans ce qu'il a d'absolument classique. Et lorsque je suis arrivé presque à la fin des études classiques de philosophie, j'ai eu le même besoin que beaucoup de mes camarades, c'est-à-dire le besoin de, peut-être si ce n'est de fuir, en tout cas de faire un pas de côté par rapport à la façon dont on nous l'enseigne, disons jusqu'au moment où il s'agit de faire une thèse. Et pour moi, ce pas de côté, c'était la lecture des sciences sociales, essentiellement de l'ethnologie, de la sociologie, et en fait des grands classiques, Durkheim, Mauss, Weber, mais aussi Freud, etc. Donc c'était ça, disons, ma porte, alors pas ma porte de sortie, parce que je suis resté dans la discipline de la philosophie, mais ma manière d'alimenter le travail conceptuel à partir d'un répertoire de savoir qui n'est pas directement la philosophie elle-même. Je pense que c'est nécessaire, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas depuis l'avènement des sciences sociales, on ne peut pas faire autrement que de mettre la philosophie à la remorque des savoirs qui lui sont extérieurs, que ce soit des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines ou d'autres types de savoirs. Donc moi, j'ai fonctionné comme ça. Alors, il se trouve que ça correspondait à peu près au moment où le livre de Descola, Par de nature et culture, est sorti. Le livre est sorti en 2005 et moi, j'ai passé l'agrégation de philosophie en 2006, donc voilà, c'était juste après. Donc du coup, je peux pas dire que je me suis d'abord intéressé aux sciences sociales, puis après aux questions écologiques ou l'inverse. Les deux se sont faits un petit peu en même temps, c'est-à-dire que je suis rentré dans la lecture des sciences sociales par le problème des rapports entre nature et société, et on pourrait dire réciproquement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la chose écologique par l'intermédiaire de ces nouveaux travaux qui proposaient une redescription de la modernité à partir de ce problème-là, redescription de la modernité qui du coup était concurrente avec la conception endogène qu'en propose la philosophie politique, liée aux théories des Lumières, aux contractualistes, enfin Rousseau, Kant, etc., ou à la relance néo-contractualiste, rawlsienne, ou même en fait à l'univers marxiste qui reste quand même extrêmement moderne dans sa facture théorique générale. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, s'intéresser aux sciences sociales, ça voulait dire d'abord questionner ce couple notionnel et réciproquement.
Ok. Et du coup, le passage entre ta thèse et ton HDR, c'était quoi le chemin?
Alors, ces deux étapes-là, effectivement, il y a un autre, on peut dire, décalage. C'est que d'abord, dans ma thèse, je me posais les problèmes essentiellement sous une forme, disons, d'épistémologie des sciences sociales, c'est-à-dire je m'étais demandé comment ce champ des savoirs précis qu'était l'anthropologie sociale, et encore l'anthropologie sociale francophone, hein, parce que ça déborde, comment ce domaine-là s'était confronté en fait au problème à travers la question de l'animisme, du totémisme, enfin essentiellement du totémisme en fait, puis dans le structuralisme, l'anthropologie marxiste, comment la question des rapports collectifs à un milieu avait été traitée en fait sous forme comparative par l'ethnologie. Donc ça, ça relevait de l'épistémologie des sciences sociales. Et à la fin de cette thèse, je me suis bien rendu compte, notamment déjà à travers la lecture de Polanyi, que ce problème aussi se posait au niveau de l'économie politique et au niveau de la philosophie politique plus générale. Et puis sans trop tarder, je me suis rendu compte aussi que pour pouvoir le traiter, pour pouvoir garder le même problème, mais vraiment en le faisant venir en philosophie politique, j'étais obligé de changer d'échelle de temps et de poser le problème au moins à partir de de l'historiographie standard de la modernité qui nous reconduit au moins au 18e, voire au 17e siècle. Donc c'est comme ça que le projet a pris forme. Et c'est assez tard en fait que je me suis aperçu que ce couple d'abondance et de liberté n'était pas une mauvaise manière d'organiser mes recherches, parce que c'est vrai qu'on voit tout le temps à l'œuvre ce que j'appelle parfois ce conflit d'orientation chez les modernes. Est-ce qu'on cherche plutôt l'accroissement de la base matérielle du collectif pour répondre à certains enjeux liés à la rareté notamment, ou est-ce qu'on cherche l'actualisation des idéaux d'égalité, de liberté, de justice sociale, et qu'en fait entre les deux il y a tout un tas d'interférences conceptuelles et aussi empiriques qui se passe, et c'est de ça que j'ai choisi de faire l'histoire, finalement.
Ok, tu dis que c'est venu assez tard, ce couple de notions, ça veut dire que tu avais d'autres pistes au départ, que tu as mis de côté ou...
En fait, j'avais probablement d'autres pistes de départ dont je ne me souviens pas réellement. Je pense qu'en fait, tout ce projet a pris forme quand j'ai commencé à faire un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, qui s'appelait « La nature en politique », je crois que c'était en 2015, début 2016. J'enquêtais un petit peu comme on fait toujours à l'École des hautes études, c'est-à-dire un peu au hasard, un peu en se laissant perdre par les jeux de renvois, de références les unes après les autres. Je tournais autour du problème de la richesse, en fait, de la dimension politique de la conquête de la richesse. Et probablement que la première version de ma réflexion sur abondance et liberté avait une forme différente de celle qu'elle a dans le livre. C'était en fait, elle était plus, plus directement critique, plus accusatoire. C'était en gros, quel est le coût écologique de la conquête de l'abondance, de la conquête de la liberté. C'était vraiment ça. Et ensuite, on peut dire, j'ai un petit peu symétrisé le problème et il a fini par avoir une allure un petit peu différente.
Est-ce que je me rappelle qu'en 2015, tes premières recherches, ce que tu présentais dans ton séminaire, c'était les textes de Locke en premier, quoi.
C'était ça. C'est possible. Tu vois, chaque étape annule un peu les autres, et tu vois, j'ai pas une mémoire très nette de l'échafaudage que j'avais construit pour finalement arriver à, enfin, c'est la bonne formulation, je sais pas, mais en tout cas la formulation définitive des enjeux.
C'est vrai que moi je m'en souviens très bien, je me suis dit en ouvrant ce livre, bah en fait, très bien, il avait commencé en 2015, j'étais là. Ouais. Pour compléter cette question-là où tu présentes un peu la manière dont tu en es venu à écrire ce livre, est-ce que tu pourrais, avec l'aide d'un ou plusieurs schémas, c'est toi qui vas décider, te situer dans le paysage universitaire de l'écologie politique et ou des sciences sociales ou de la philosophie des sciences sociales.
Alors, tentons un schéma de mes affiliations intellectuelles et qui permet de, comme tu m'as demandé, de me situer dans un et en l'occurrence dans plusieurs champs. Je pourrais peut-être préfacer en disant que il est inhérent à la philosophie qu'elle se situe au croisement de différents champs disciplinaires. La philosophie n'est pas une science, on ne produit pas de savoir. On est tributaire des autres qui, eux, en produisent. Et nous, on crée, en tout cas, c'est la conception que je me fais de l'activité philosophique, on crée les liens entre différents types de savoir En fait, on se situe dans l'interface critique entre différents espaces épistémiques. C'est ce qui nous donne notre spécificité et ce qui fait d'ailleurs que la tâche de la philosophie a été totalement transformée par l'émergence des sciences sociales à la fin du 19e siècle. En vous disant ça, je commence déjà à faire le schéma puisque ça me on va le faire en rouge, tiens, ce sera plus cohérent. Ça m'inscrit dans un premier cercle qui est celui de la philosophie sociale. Donc je vais écrire philosophie sociale. La philosophie sociale, c'est donc ce domaine de l'activité conceptuelle qui consiste à revenir sur l'histoire et les enjeux théoriques qui sont liés à la constitution d'une réflexion sur les savoirs politiques modernes, qui ne sont pas seulement des savoirs de gouvernement, bien sûr, mais ce sont les savoirs qui expriment les représentations collectives liées à la domination, à la division du travail, aux idéaux politiques plus ou moins partagés dans les sociétés modernes. Et la philosophie sociale est par définition tributaire de la sociologie, que ce soit la sociologie durkheimienne ou weberienne, ou même la sociologie américaine, peu importe en fait tout type de sociologie. Et c'est une manière de faire de la philosophie politique qui se situe dans l'héritage de la pensée critique marxiste, mais qui décale une partie de ses enjeux, puisque ça consiste à ne pas entièrement coder la question sociale en question d'exploitation économique. Donc philosophie sociale, c'est l'un de mes mentors devenus collègues principaux, Bruno Carsanti. Et puis je ne vais pas noter le nom de tout le monde, mais c'est en fait l'équipe dont je fais partie, le laboratoire dont je fais partie, hein, mes collègues Gilda Salmon, avec qui j'ai énormément travaillé, Florence Hulac, Julia Christ, Francesco Calegaro, ils sont nombreux aujourd'hui, et puis il y en a de plus jeunes qu'on a formés, comme Stefania Ferrando. Voilà, très nombreux collègues. Et puis aussi, tout de même, j'ai fait ma thèse avec Stéphane Haber. Stéphane Haber, qui lui est professeur à Nanterre, désormais, enfin depuis longtemps maintenant, et qui est en fait plutôt un héritier de l'école de Francfort. Donc c'est une autre veine de philosophie sociale, peut-être plus étroitement liée à l'héritage de Marx, mais d'une certaine manière aussi à la psychanalyse, à la phénoménologie. Donc voilà, philosophie sociale, et on pourrait dire qu'au cours de mes réflexions, mon inscription dans ce champ a fini par se coaguler dans une lecture de Karl Polanyi, qu'on pourrait dire c'est un de mes grands totems intellectuels, on va dire, enfin l'une des références principales d'Abondance et Liberté aussi, donc je le mets, on pourrait dire que je le mets au milieu. Puisqu'il se trouve que dans Abondance et Liberté, c'est Polanyi qui est consacré comme celui au sein de la philosophie sociale qui a le mieux saisi en fait, les enjeux que j'essaie de discuter. Un deuxième cercle, c'est, on peut dire, comment on pourrait l'appeler c'est les redescriptions de la modernité à partir d'une critique des rapports entre nature et société. C'est comme ça que souvent les gens perçoivent mon travail, c'est l'héritage de mes deux camarades, d'Escola et Latour. Donc on va mettre d'Escola, Latour, il y a évidemment bien d'autres personnes qui pourraient être citées. Donna Haraway, bien sûr. Plus proche de nous, notre collègue Émile Yache ou Vinciane Després, Isabelle Stengers, bien sûr. Il y a tout un tas de noms qu'on pourrait citer. Un nom qu'on cite peu, mais qui a une influence extraordinaire dans ce domaine-là, c'est Marilyn Strathern, qui est une anthropologue britannique. Alistair bon, qui est l'auteur d'une œuvre redoutable à lire, mais qui est passionnante. Et puis aussi, dans ce domaine-là, les études, disons, au sens très large, de cette fois qui est moins un décentrement lié au couple nature-culture, mais un décentrement lié, on pourrait dire un décentrement post-colonial, c'est-à-dire une redescription venue du Sud. Des études subalternistes et postcoloniales, des rapports collectifs à la nature comme produit de la domination impériale. Il y a dans ce domaine encore de très nombreux auteurs, et notamment, moi je m'étais notamment beaucoup intéressé à l'historiographie indienne. Les livres qui m'ont peut-être le plus influencé dans ce domaine-là, c'est ceux de Ramachandra Guha, on peut le noter aussi. Qui est un très très grand historien indien, et d'ailleurs qui n'a pas simplement travaillé sur l'histoire de l'environnement indien. Il a aussi écrit un livre sur le cricket, il a écrit une biographie de Gandhi. C'est une célébrité en Inde, il est très connu. Il a d'ailleurs récemment été inquiété par la police de Modi. Donc c'est aussi un intellectuel engagé, bref. Donc voilà, les redescriptions de la modernité à partir du problème des rapports collectifs à la nature. Et puis, un troisième cercle, celui-ci, bon, il est plus, on pourrait presque dire, c'est le reste, mais il a quand même on pourrait dire qu'il a quand même une cohérence interne. C'est un cercle qui est quand même centré sur l'histoire environnementale. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre « Histoire environnementale des idées » est un hommage au travail de mes collègues historiens. Qui ont eu quand même une influence importante sur moi, et pas seulement sur moi, parce qu'ils ont proposé une nouvelle histoire de la modernisation industrielle à partir des risques, à partir des contestations des technologies, à partir des pollutions, bien sûr. Donc je pense au travail de mes camarades Fressoz. Donc là, c'est des gens plus jeunes, c'est des gens quasiment sont à peine plus vieux que moi, en fait. Hein, Fressoz, Fabien Locher, mais aussi des gens qui ont travaillé sur des temporalités plus brèves. Par exemple, quelqu'un qui est très important, c'est Ami Dahan, qui a travaillé sur les politiques climatiques. Donc Ami Dahan, quelqu'un qui a eu une importance quand même significative dans la construction de mon travail. Donc voilà, on va dire l'histoire environnementale et d'une certaine manière aussi l'histoire économique de l'environnement. Par exemple, pour moi, il y a un livre qui ne relève, qu'on ne considère pas relever de l'histoire environnementale, mais qui a eu une importance absolue, enfin, qui est peut-être un des trois ou quatre livres les plus importants pour moi, c'est Une grande divergence de Kenneth Pomerantz. Donc lui, il n'est pas. C'est pas un de nos collègues ici même, il enseigne à Chicago, je crois. Mais son livre est absolument décisif pour comprendre toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un que j'ai oublié, que je devrais mettre dans le cercle vert, c'est Timothy Mitchell. Carbone démocratie est aussi, j'y pense parce que je l'associe beaucoup à Pomerantz, est aussi un auteur clé pour moi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se configure. Alors vous allez me dire, il manque un truc dans votre schéma, c'est la philosophie de l'environnement. Quid des grands classiques de l'éthique environnementale, quid aussi par exemple, du travail de quelqu'un qui évidemment a eu une grande influence sur moi, Catherine Larère par exemple, des gens qui ont été les premiers à faire de la philosophie environnementale en France. Alors, ils existent, on pourrait les mettre à côté. Eux, ils sont transversaux. Donc, philosophie environnementale. On va mettre Catherine Larère. Alors, pourquoi je les mets un peu à l'extérieur? Parce que, justement, mon travail, en tout cas dans ce livre, ça consistait à ne pas poser la question de la même manière qu'eux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raté leur coup. Ça veut simplement dire que moi, j'ai cru nécessaire, en tout cas utile, de déplacer le questionnaire, c'est-à-dire de pas forcément se demander s'il y avait un dépassement écologique des sociétés industrielles, ou enfin si on pouvait en fait refonder de manière normative le pacte social sur la référence à la nature. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai voulu travailler. Donc ils sont présents, mais ils sont pas nécessairement directement impliqués dans la construction théorique d'abondance et liberté. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je me situerais. Bon, évidemment, l'écueil, c'est que tout ça conduit à me mettre au centre de beaucoup de choses. Moi, je ne suis au centre de rien, évidemment, c'est un effet du schéma. Mais en tout cas, c'est comme ça que je raisonnerais. Mettre anthropologie de la modernité, ça, ils auront tous un titre. Il y a du scotch, hein. Et puis là, bon, ben, histoire environnementale.
On va en venir à une question un peu plus particulière sur le cœur de ton ouvrage. Du coup, c'est la question sur... la manière dont tu amènes la symétrisation, en fait, donc ça c'est plutôt la fin de ton livre. En fait, tu notes parmi les symétrisations que tu proposes, celle des luttes féministes que tu installes aux côtés des luttes postcoloniales et écologistes. Et plus loin, tu notes que ton analyse de cette grande symétrisation que tu as fait tourner autour de l'écologie et des pensées subalternes, en fait, elle pourrait être enrichie par les théories féministes. Et tu notes également que finalement ça dépasse le cadre de ton ouvrage et que tu préfères laisser ça à plus tard ou que ça ne rentre pas en tout cas dans ton cadre. Étant donné que tu notes l'importance du féminisme dans le geste de symétrisation de l'écologie politique que tu vas défendre, étant donné que tu connais l'existence de ces théories, tu les notes, tu connais aussi l'écoféminisme, qu'est-ce qui t'a poussé à laisser tout ça de côté et, enfin, je vais poursuivre ma question un peu plus longtemps. L'anthropologie de Descola et de Viveiros de Castro, en fait, qui vient mettre en lumière le caractère situé du concept de nature, ça vient, d'un point de vue historique, on va dire, après les textes écoféministes qui, justement, désignent, qui montrent du doigt l'association nature-femme et la dissociation nature-culture et femme-homme, du coup. Et en fait, la question qui se pose, finalement, quand on a noté ça, c'est pourquoi, quand on parle de la dissociation nature-culture, c'est toujours à Descola qu'on fait référence, alors que vraisemblablement, en fait, les écoféministes lui avaient un peu damé le pion. Est-ce que finalement, même si jusqu'à présent, on riait un peu à propos des écoféminismes, parce qu'il y a plein de choses qui, entre guillemets, font pas sérieux, en fait, la manière dont Descola est investi en écologie politique, dans les luttes écologistes plutôt, c'est peut-être aussi un peu insuffisant, c'est aussi caricatural par rapport à ce qu'il a écrit. Donc finalement, la question qui se pose avec tout ça, c'est peut-être pas un problème de production par rapport à l'écoféminisme, c'est un problème de réception, tout autant qu'on a un problème de réception avec les thèses de Descola, quoi. Auquel cas, c'est curieux d'ignorer du coup... tout ce pan-là de la réflexion, et je pense qu'on peut aussi étendre le champ au-delà de l'écoféminisme, en fait. Hein. C'est une question similaire qui se pose, je pense, dans la question de la sociologie des sciences. L'épistémologie féministe, elle fait des gestes similaires en disant que finalement, en fait, la construction de la science, elle repose sur des fondements politiques et que c'est indissociable. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, au lieu de repousser en disant c'est une autre sphère ou c'est une sphère annexe, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler avec les textes féministes et écoféministes, selon toi ?
Alors, merci. Ça, c'est bon. C'est une série de questions très importantes et d'autant plus importantes qu'effectivement, comme tu as remarqué, je les ai laissées de côté dans le livre. Donc, effectivement, on est tout à fait fondé à identifier un écart entre le type de questions que je me pose et les matériaux que j'emploie pour y répondre. Donc, d'abord, le premier aspect de ta question sur la symétrisation et pourquoi je n'ai pas consacré plus d'efforts à intégrer la symétrisation féministe ou même écoféministe. Bon, d'abord, bon, Pourquoi asymétrisation? Parce que j'ai estimé que pour bien faire, c'est peut-être le chapitre le plus difficile du livre, mais bon, pour bien faire comprendre au lecteur que la question écologique demande, enfin suppose de faire exploser toutes les catégories, presque toutes les catégories issues de la modernité politique. Ce qu'il nous faut, c'est pas tant révoquer ces catégories comme, comme un pur maléfice historique, un truc, un péché historique qu'il faudrait laver, mais comme quelque chose qu'il faut regarder comme local, provincial, en gros qu'il faut le déconstruire. Et c'est ce qu'ont voulu faire les auteurs que je rassemble dans cette grande catégorie de l'effort de symétrisation. Donc il y a trois grands mouvements, symétriser la centralité du social par rapport à la nature, donc ça c'est ce que je dois effectivement à des gens comme Descola ou Latour, symétriser la centralité, disons, de l'Occident moderne par rapport au reste du monde, hein, toujours avec des guillemets, ça c'est ce que je dois, donc j'en parle aussi dans le livre, à la tradition de pensée subalterniste, ensuite postcoloniale, mais aussi aux théories de l'échange écologique inégal, hein, je ne l'ai pas mis dans mon schéma, mais il est important, Martinez Allier, et d'autres encore, Agoua. Et il y a un troisième front de symétrisation, qui est le front féministe, celui qui remet en cause la centralité du pôle masculin par rapport au féminin. Alors effectivement, celui-là, je le laisse de côté. Pourquoi ? D'abord parce que mon savoir est limité et comme je me suis focalisé sur un problème, disons, économico-politique, il m'a semblé que l'effet d'intelligibilité était déjà existant, était déjà réel, si on s'en tient à la symétrisation de nature-culture et de nord-sud, disons. Une critique féministe serait fondée à m'objecter ça suffit pas, si t'as pas tous les aspects du problème, ça suffit pas. Peut-être, mais ça c'est un débat que j'aimerais bien avoir, peut-être avec toi d'ailleurs. Mais alors je l'ai pas fait, donc d'abord parce que je ne sais pas suffisamment de choses. Il y a aussi, il faut l'admettre, un problème de, on pourrait dire, quasiment de politique de la pensée. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a bien compris que ce livre était autant un livre en défense de l'écologie politique qu'un livre de critique de l'écologie politique. Des références qui brillent par leur absence dans le livre, c'est les Gors, les Illich, enfin, en fait, les penseurs, disons, officiels de l'écologie politique. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même un contre-pied assez important par rapport à eux. Donc, il aurait fallu, si je parlais d'écoféminisme, que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je ne prenne pas les théories écoféministes pour argent comptant et que j'en fasse la critique. Or moi, ça, je ne me sens pas légitime. Je pourrais quasiment dire que ce n'est pas à moi de le faire, pour plein de raisons, précisément parce que la pensée est située aussi. Et donc, il aurait fallu faire une critique écoféministe de l'écoféminisme, en fait, hein, qui existe d'ailleurs. Par exemple, il y a un conflit dans l'écoféminisme, enfin, un controverse, un débat entre un écoféminisme, disons, il y en a des variantes spiritualistes, ou il y en a des variantes plus culturalistes, ou plus. Bon, il y en a plein de variantes, mais il y a aussi une variante, disons, matérialiste, c'est en fait qui vient de la critique de l'économie politique, probablement celle dont je me sentirais spontanément le plus proche, mais encore une fois, c'est pas évident d'écrire sur ces questions-là, alors que ça m'a pas provoqué de cas de conscience particulier de faire une critique de l'écologie politique mainstream. Bon, y a peut-être des gens que ça offense ou que ça contrarie, mais ça me dérange pas de les contrarier. Bon. Alors maintenant, si on me dit il faudrait faire ce travail-là quand même, quelle forme ça pourrait prendre ? Si je le savais, j'aurais écrit dans le livre, mais on peut réfléchir. Par exemple, ça voudrait dire qu'il faut intégrer depuis le début du récit que j'ai essayé de faire, enfin du récit ou du parcours théorique et historique, intégrer la composante qui est non seulement en fait la sphère productive et territoriale, mais aussi la sphère, on pourrait dire, reproductive, c'est-à-dire en fait la façon dont la division sexuelle du travail est impliquée dans la construction de la sphère économique, comment elle est impliquée aussi dans les légitimations idéologiques des nouvelles économies politiques. Là, par exemple, beaucoup de gens ont remarqué que Malthus était absent du livre. C'est évident que, par exemple, si on fait rentrer Parmi les composantes qui font partie de mon travail, la question, voilà, population, reproduction, famille, etc. Là, Malthus aurait, enfin les critiques, disons, féminines, enfin Malthus et ses critiques auraient été importants. La dimension religieuse de l'organisation sociale aurait aussi été importante. Donc, en fait, il aurait fallu, c'est-à-dire, pas seulement faire apparaître à la fin de mon récit l'écoféminisme comme quelque chose qui participe à détendre le schéma moderniste, ce qui est vrai, hein, mais aussi à en faire la généalogie en même temps que le reste. Et alors ça, moi, à la limite, je peux pas tellement dire mieux que si quelqu'un a envie de travailler là-dessus, qu'il vienne s'inscrire en thèse avec moi. Et d'ailleurs, probablement que ça existe déjà et que des gens ont fait ou ont amorcé ce travail. Et donc il faut que je le lise dans ce cas-là. Mais voilà, c'est vraiment, un champ à part entière et suivre dans l'histoire. Et par exemple, comment la question féministe a été discutée dans les pensées socialistes, industrialistes au 19e siècle. Je mentionnais tout à l'heure dans le schéma ma collègue, j'espère future collègue, Stéphania Ferrando, qui a travaillé sur le féminisme socialiste en France au 19e siècle. Là, il faudrait voir comment ça peut s'agencer, comment la question de la différence sexuelle, de la différence des genres a été traitée dans la sociologie, que j'embarque aussi dans mon histoire à travers Durkheim. En fait, comment à chaque étape apparaît non seulement le couple abondance et liberté, mais aussi le couple du masculin, du féminin, avec tous les enjeux de reproduction sociale. Ça, moi, je trouverais ça passionnant. J'ai en fait surtout énormément de choses à apprendre là-dessus. Peut-être que tu fais partie des choses, des gens qui ont des choses à m'apprendre là-dessus. Et voilà, et on pourrait pousser jusqu'à la fin cette histoire-là. Est-ce que je vais moi-même faire ce travail-là? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas trop la direction que ça prend. Mais je serais plus que ravi que la question de la différence des genres et des sexes soit intégrée totalement à une histoire des réflexivités environnementales.
Parce qu'en fait, quand tu vas sur l'histoire de la colonisation et du fait que tu expliques qu'en fait, il y a une mise à distance par rapport aux théoriciens qui sont restés dans la sphère européenne, il y a une mise à distance par rapport à l'exploitation esclavagiste. Et que du coup, ça sort de leur champ de vision.
Ouais.
Et bon, ça, c'est l'exploitation d'autrui, c'est le truc qu'on se masque un peu à l'époque. Et en fait, ce qu'on trouve chez les féministes, c'est que c'est chez soi en fait que l'exploitation elle est devant les yeux des gens. Donc au final, il n'y a plus l'excuse de la distanciation, il n'y a plus l'excuse de on se cache le truc. C'est presque le pendant très rapproché, la loupe sur l'exploitation d'autrui, mais chez soi.
Ouais, c'est tellement proche qu'on ne le voit pas.
Alors peut-être que c'est tellement proche qu'on ne le voit pas, exactement, et c'est pour ça que j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir cet aspect-là, parce que finalement, la production capitaliste, elle repose sur l'exploitation d'individus, mais directement sur place. C'est-à-dire que la distinction entre la sphère de la reproduction et celle de la production, c'est ce qui permet intellectuellement de se dire qu'il y a une forme de travail gratuit et de travail approprié, de la même manière qu'il y a du travail gratuit et approprié dans l'esclavage, en fait. Et je pense que ça aurait pu être, comme tu dis, quelque chose qui se brode tout au long de cette histoire-là, avec l'émergence de cette catégorie de la reproduction et la manière dont le travail a été ensuite valorisé comme de la socialisation, avec une séparation étanche, etc. Je pense que ça aurait pu avoir sa place là. Et je me demandais par rapport, par exemple, au texte qui naît dans les années 70, les féminismes marxistes, qui récupèrent vraiment cette critique-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire une lecture en se posant la question, je pense qu'il faudrait le faire, de savoir si effectivement il y a une lecture en termes de matérialité, de critique de la matérialité de la liberté qui est cachée, quoi. Je pense qu'il faudrait les relire éventuellement à cette aune et que ça ferait un contre-pied à plein d'autres choses à l'intérieur. Et effectivement, alors ce que je te formulais dans la question, c'est la question de savoir aussi comment ça se fait que quand on a les mêmes gestes théoriques dans l'écoféminisme et en anthropologie de la nature, il y en a une qui est en effet déviée, mise de côté, et l'autre qui apparaît comme
un grand miracle intellectuel. Et c'est ça qui est très curieux, quoi. Et je m'en suis rendu compte assez récemment en me disant, mais c'est incroyable, moi, de toute ma scolarité universitaire, j'ai appris des scolas, c'est formidable. Et quand je lis les textes écoféministes, mais c'est dingue. Ils avaient vachement d'avance, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est jamais mentionné? Est-ce qu'il y a des retours, parfois, intellectuels, je sais pas, des scolas ou des gens qui font partie de ce mouvement-là de pensée, de se dire qu'effectivement, il y a d'autres choses à relire et à mettre en lien, et que c'est une filiation qu'il faudrait peut-être faire. Je ne sais pas, est-ce que ça émerge des fois ou pas du tout?
Alors, je réponds d'abord à la première partie, enfin, je rebondis en fait sur la première partie de ce que tu disais. On pourrait en fait imaginer que la question, disons, de la reproduction sociale ou de la différence des sexes et des genres s'intègre au travail que je propose de manière assez simple. J'emploie dans le deuxième chapitre du livre l'expression de l'affordance politique de la terre ou du sol, je ne sais plus, ou les deux. Alors effectivement, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est comment la pensée politique se greffe sur des appuis matériels, notamment dans le contexte pré-industriel, la question de la terre, du foncier, de l'habitat, tout ça. Effectivement, on pourrait très bien dire, il y en a un autre de très grand appui matériel de la pensée politique, c'est celui qui constitue le corps. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait une différence des corps est un appui de la pensée et qu'on ne produit pas le même type de pensée si on a ça en vue ou pas. Et, enfin, là, on peut estimer, de la même manière que j'affirme que la pensée politique classique est toujours une opération qui concerne l'administration des territoires et des ressources, on pourrait dire qu'elle concerne aussi toujours l'administration des rapports de genre et de sexe, parce qu'il y a des affordances politiques du corps. En fait, ce serait une manière d'utiliser en histoire des idées, en philosophie politique, le travail de Françoise Héritier, ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. En fait, c'est ça. Et on peut très bien le mettre au travail dans l'histoire des idées politiques modernes. Bon, je ne l'ai pas fait, mais vraiment, soit des gens l'ont déjà fait et je l'ai manqué, soit si ce n'est pas fait, peut-être qu'on pourrait essayer de s'y mettre. L'autre aspect, pour rester encore un peu sur le féminisme, parce que vraiment, enfin, c'est intéressant, et puis ça me pousse aussi un peu à réfléchir au-delà de ce que je fais habituellement, c'est en fait l'écoféminisme comme critique du féminisme. Par exemple, tu disais, il y a un féminisme matérialiste, marxiste, et il pourrait être intéressant de savoir si la critique que je fais au marxisme standard, disons, s'applique aussi au féminisme marxiste, c'est-à-dire si c'est, pour le dire un peu brutalement, un féminisme productiviste, et si, de la même manière que la critique a été faite déjà au féminisme, disons, mainstream, libéral, en fait, c'est une formation de pensée qui est totalement tributaire de la grande accélération matérielle des Trente Glorieuses, c'est un féminisme, en fait, qui ne fonctionne pas sans l'automobile et la machine à laver, enfin, la théorie standard, disons, de la libération de la femme par la poussée économique. En fait, et là, il y a un domaine d'investigation aussi, je pense, qui, problème, à coup sûr, n'est pas en friche, hein, parce que c'est des questions trop importantes pour être laissées de côté. Donc pareil, hein, il faudrait voir en fait, à quel point l'écoféminisme est une critique d'un certain féminisme, quoi, ou une autocritique du féminisme, disons. Et là, ça rentrerait aussi peut-être... enfin, c'est pas ce que ça rentrerait dans mes cas, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt moi, mon travail qui rentrerait dans d'autres cadres de réflexion. Alors maintenant, là, sur le dernier aspect de ce que tu dis, bah, c'est-à-dire que ce que tu dis est à la fois très vrai et embarrassant, parce que... si vous regardez la bibliographie de mon livre, ben vous verrez qu'elle est massivement masculine. Et qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète simplement le fait que les inégalités de genre ont des effets directs sur la production du savoir. Et notamment, d'ailleurs, c'est le biais qui pèse le plus sur moi. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur des grandes synthèses historiques, des travaux un peu ambitieux. Bah, il se trouve qu'en général, le plus souvent, ils sont produits par des hommes, bah, parce que c'est les hommes qui ont les meilleurs postes, qui ont le plus de temps. C'est aussi les hommes qui n'ont pas l'entrave, entre guillemets, d'être ralenti par les enfants, etc. Enfin, donc, c'est vrai que ce biais-là pèse sur moi, comme il pèse... très honnêtement, sur 99% des chercheurs. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le féminisme, c'est à la fois une série de théories sur la société, mais aussi une série de théories sur la production, les conditions matérielles de production du savoir. Et voilà, donc je n'en suis probablement pas assez conscient. Et c'est vrai, ce que tu dis est vrai, ça s'applique au cas à Descola ou à d'autres. Alors, pour revenir à ça, est-ce qu'on peut dire que ce qu'a dit Descola, les écoféministes l'avaient dit avant ? Peut-être, mais bon, le problème c'est que si on joue au jeu de l'antécédence, on pourrait dire dans ce cas que par exemple, que la géographie sociale du début du siècle l'avait dit encore avant, et puis que peut-être Humboldt l'avait dit encore avant, et puis bon, on pourra remonter très très loin parce qu'effectivement, le dualisme nature-société en fait a jamais vraiment réussi à se constituer comme un truc complètement stable. Il a été. Enfin, il n'y a qu'à voir, déjà Spinoza, au XVIIe siècle, il n'est pas vraiment naturaliste, tout en employant le langage théorique du naturalisme. Enfin, bref, c'est quand même une histoire un peu compliquée. Par contre, il y a un aspect de ce que tu dis qui est absolument vrai, c'est que la référence constante à Descola dans la construction d'une proposition politique post-naturaliste est souvent assez naïve. Et je dis ça... D'autant plus que j'aime beaucoup le travail de Descola et que je pense qu'il n'est pas toujours bien. On lui rend pas toujours justice quand on essaie de dire que l'avenir de nos sociétés, c'est de sauter à pieds joints dans l'animisme et qu'on va donner une âme à tout. Parce que d'abord, c'est pas ça l'animisme. Vous lisez les ethnographies de Descola et d'autres, vous verrez qu'en fait, l'animisme, c'est pas forcément des conditions de vie géniales. Et notamment pas pour les femmes, il disait les lances du crépuscule. Vrai que l'animisme, ça peut avoir l'air chouette vu d'ici, mais pour les femmes, là-bas, c'est pas terrible. Donc, la subversion animisme de la modernité, moi je peux vous dire très franchement, j'y crois pas du tout, et je me prononce pas pour Descola, hein, mais moi j'y crois pas. Je pense pas que ce soit dans la direction dans laquelle Descola voulait nous emmener. Mais c'est quand même un fait social significatif de noter que certaines luttes, certaines mobilisations ont endossé ce langage-là. Indépendamment du fait qu'il soit fidèle ou non à l'œuvre de certains penseurs, bah ça existe comme un fait social et c'est peut-être pas inintéressant du coup de le traiter comme tel. Mais après voilà, est-ce que moi, honnêtement, je suis pas capable de mesurer la contribution réelle des théories féministes dans la remise en question du naturel et du social. Une chose est sûre, c'est qu'en ethnologie, en anthropologie, c'est là-dessus que j'avais bossé, je l'ai noté hein, dans mon schéma, la contribution de Marilyn Strasser est largement sous-estimée parce que pour le coup, ça c'est évident qu'elle a écrit avant Descola. C'est évident que Descola lui doit beaucoup. Il le dit. Mais peut-être qu'effectivement, mais aussi, en fait, c'est autant un problème, on va dire, de domination masculine qu'un problème encore plus bête, de nationalisme épistémologique. Il est français, donc c'est Descola qui a tout inventé. Je pense que s'il était là pour parler avec nous, il concéderait sans aucun problème qu'il a proposé une construction théorique originale, mais il est l'inventeur de rien. Enfin, faut être sérieux quand même aussi.
Mais c'est en rapport avec les conditions de production du savoir.
Ouais, et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que les conditions de production du savoir sont indissociables des conditions de réception des mêmes savoirs. Et il serait difficile de nier qu'il y a une sous-réception des travaux, d'abord écrits par des femmes, et encore plus sur les sujets féministes. Et que cette sous-réception, bah forcément, le corollaire, c'est qu'il y a une sur-réception du travail des hommes.
En fait, on dirait que tu prends peut-être des précautions par rapport à la critique de ces textes-là, en disant, bah, effectivement, je ne suis pas spécifiquement bien placée pour faire la critique, ou pour peut-être quelque part le réinvestir avec ce que moi je voudrais en faire. Ça pourrait paraître une sorte de manipulation, mais finalement tu as investi sans aucun problème la critique postcoloniale, et ce matin tu te dis finalement on pourrait se dire qu'en te regardant c'est pas
vrai.
Spécifiquement ton domaine non plus.
C'est vrai, c'est vrai.
Et est-ce qu'il y a une réflexion justement dans le milieu universitaire sur se dire comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sans faire de l'ombre aux gens qui produisent et qui justement par rapport au système de production sont invisibilisés. Est-ce qu'il y a une conscience de ça et une volonté d'aller contre cette pente glissante qui fait que bah, effectivement très vite on va vers une sorte de soit d'entre-soi, soit d'accaparation avec on fait un peu le ménage quoi, sans vraiment le vouloir, parce que finalement c'est la production qui fait que. Est-ce qu'il y a une attention qui est un peu portée à ça?
L'attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire ça à un problème de volontarisme individuel. D'abord, c'est un problème de structuration de la recherche publique, de politique de recrutement. Enfin, pour le coup, c'est vraiment de la politique scientifique de grande ampleur. Et puis, si on revient à un enjeu plus subjectif, hein, plus personnel, c'est simplement payer ses dettes. Vous avez remarqué par exemple que dans le livre, je cite pas mal de fois le travail de Cilliane Larcher. Cilliane Larcher, elle est philosophe et politiste. Elle a écrit un bouquin qui est honnêtement extraordinaire, qui s'appelle L'autre citoyen. J'ai oublié la date, 2015-2016, par là. Enfin, c'est un bouquin récent, quoi. Qui est en fait une réécriture de la genèse du républicanisme. À partir des luttes des Antilles, donc des luttes anti-esclavagistes des Antilles, et comment elle décrit, en plus elle est un talent extraordinaire, très forte, hein, comment le lexique politique de l'émancipation, de l'autonomie a été repris, recodé, on peut dire recodé comme une arme contre ses géniteurs. Blanc donc, par le mouvement anti-esclavagiste. Donc ça c'est un livre typiquement qui pour moi, enfin je l'ai lu tardivement, donc c'est pas complètement métabolisé, mais a été important. Donc voilà, des gens proposent des effets d'éclairage théorique formidables à partir des luttes, en l'occurrence anti-esclavagistes, mais dans d'autres cas, je parlais du travail de Ramachandragua ou de Dipesh Chakrabarti et d'autres, c'est d'une très grande valeur épistémologique, même indépendamment d'une simple politique de la représentation, de qui parle et qui ne parle pas dans l'université. C'est tout simplement des travaux de premier plan. Il en va de même pour les travaux qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. On voit aujourd'hui, il y a eu encore récemment des tribunes écrites contre les études postcoloniales. C'est affligeant à la fois de déconnexion intellectuelle et en fait tout simplement de racisme aussi. On a besoin de ces gens-là. Récemment, bien sûr, notre camarade Malcolm Ferdinand a écrit un très bon livre sur une approche postcoloniale des choses écologiques. Voilà, on a de nouveaux collègues qui participent au monde académique, qui en modifient d'abord la composition et puis aussi les attentes, les attentes intellectuelles. Donc j'espère que ça va continuer et s'accélérer.
Ça pourrait être juste une affaire de, effectivement, quand on reçoit une demande, se pousser pour dire, en fait, c'est pas spécifiquement moi qui a trouvé le sujet et dire, je vais revenir pour cette personne à la place.
Oui, absolument. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire, effectivement, en face de la question écoféministe, est-ce que je la traite de manière critique comme le reste, ou est-ce que, comme tu dis, je me pousse pour laisser, en l'occurrence, des femmes en parler? Je pense que ça peut faire l'objet d'un processus de réflexion collective serein, et qui sera d'autant plus serein que tout simplement des femmes sont recrutées, que des gens issus soit des Antilles, soit de je ne sais quelle région du monde sont recrutés, et donc en fait fassent partie de plein droit de la communauté.
Autre question, du coup, page 53, je te cite, et peut-être aurait-il fallu remonter encore plus loin. Alors, encore plus loin que le XVIIe siècle, donc avant. Donc, j'ai eu quelques commentaires de personnes disant que pour elles, il aurait fallu remonter plus loin. Et la question des débuts, des causes, des commencements en histoire, c'est une question qui est assez épineuse. On le voit quand on a de l'histoire du capitalisme qui est proposée, c'est-à-dire qu'on a... je ne sais pas combien de propositions de commencement, on a des propositions de lecture en termes de phase, en termes de mécanisme, etc. Donc ça fait polémique en fait, la question du commencement et aussi après du déroulement bien sûr. Et avec ta lecture du concept de liberté, conçu comme abondance, on se trouve face à un problème qui est similaire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le XVIIe siècle pour faire commencer cette histoire? Du coup, est-ce que c'est à un moment, en lisant les historiens, tu t'es dit « bah, j'aurais pu peut-être commencer plus tôt » Est-ce que tu as eu des retours d'historiens, notamment d'historiens des sociétés, concernant le début, les époques de phase que tu as choisies pour étayer justement ta thèse?
Alors, c'est une question importante, mais c'est aussi une question complexe. D'abord parce que, je reprends ce que tu disais, la question de l'origine, c'est une question sensible pour l'histoire. Non, la question de l'origine, c'est une question sensible surtout pour la philosophie. Les historiens, en fait, je pense que majoritairement, ils s'en moquent des commencements, des origines. Ce qui intéresse les historiens, c'est les changements, c'est les transitions, de comment on passe d'un état A à un état B, et ils s'intéressent assez peu à l'origine, que ce soit de l'écologie ou d'autres choses. Bon, alors moi je suis pas historien, hein, mais je partage quand même ce relatif désintérêt pour l'origine avec eux, dans la mesure où j'ai pas du tout cherché à raconter l'origine de quoi que ce soit dans ce livre. Et surtout pas l'origine de l'écologie politique. C'est vraiment pas du tout un problème qui m'intéresse, c'est même le contraire qui m'intéresse. Alors, d'abord, le programme que je m'étais fixé, c'était d'aller de la révolution industrielle au changement climatique en montrant comment, disons, les appuis matériels du processus d'émancipation changent entre ces deux bornes-là. Puis en fait, en écrivant, je me suis rendu compte qu'il était peut-être pas nécessaire de remonter un petit peu avant pour montrer que la soi-disant révolution industrielle elle-même était déjà la transformation de quelque chose d'autre. Donc en fait, si on veut, mon modèle, c'est pas un modèle de l'origine. On pourrait, d'une certaine manière, il y a une dette à l'égard de Foucault, c'est-à-dire un peu comme dans Les mots et les choses, je cherche à identifier des différents paradigmes qui sont aussi des moments où les savoirs politiques s'organisent en référence à des affordances matérielles. Donc il y a une première phase où ces affordances sont essentiellement organique, foncière, territoriale, puis ensuite, alors c'est pas une substitution, s'ajoute à ça la dimension proprement industrielle, donc des machines, de la division du travail, et puis ensuite s'ajoute aussi la question climatique qui vient bouleverser les appuis matériels de la pensée politique moderne. Donc moi j'ai juste voulu faire ressortir des contrastes, mais surtout pas une origine. Donc quand je commence le livre en 1603 avec la prise d'un navire par les Hollandais aux Portugais dans le détroit de Malacca, c'est pas parce que je pense que c'est le début de quoi que ce soit, c'est juste parce que comme il se trouve que Grotius a décidé de construire un traité de droit international qui est une référence importante pour penser le tien, le mien, le commun, le privé. Je trouvais que c'était un point de départ commode pour faire ressortir le contraste avec ce qui vient après. Pas beaucoup plus de même chose pour Locke. Donc il n'y a pas d'origine dans ce livre, d'abord. Et surtout pas d'origine du capitalisme ou de quoi que ce soit. Du coup, ce que ça implique, c'est qu'on aurait parfaitement pu, et c'est pour ça que je dis j'aurais pu commencer plus tôt, mais à la limite c'est contingent, on aurait parfaitement pu raconter les agencements éco-politiques antérieurs, et d'ailleurs ça existe. Par exemple, récemment, je ne me souviens ni du nom de l'auteur, mais ni du nom du livre, mais des travaux de médiévistes sur les rapports entre nature et politique dans l'Occident chrétien médiéval. Il y a des travaux importants sur l'Antiquité. En fait, on pourrait dire il y a des coordonnées structurelles qui permettent de comprendre la formation des idées politiques, des normes juridiques, des principes économiques. En fait, on peut comprendre les rapports collectifs en référence aux rapports écologiques dans à peu près tous les contextes. La preuve, par exemple, Descola, il l'a fait pour les Achuar. Mais voilà, sans que ce soit un problème d'origine. C'est un problème de variation, en fait. C'est des variations qui m'intéressent. Donc voilà, moi, je me suis arrêté au 17e juste pour être dans le schéma de la modernité occidentale, assez standard, et pour montrer un petit morceau du pré-industriel, quoi. Voilà. Pas beaucoup plus. Et effectivement, il serait très intéressant d'utiliser des séquences historiques différentes, soit plus courtes, sur quelques dizaines d'années, ça c'est, je pense que c'est ce que je ferai plus tard, soit sur des séquences beaucoup plus longues. Par exemple, mon camarade Morisot travaille sur une histoire, en fait, une histoire politique depuis le néolithique, en fait, depuis le début de la domestication de l'animal et comment la domestication imprime déjà une marque aux catégories de pensée politique. Donc, alors là, c'est une profondeur historique beaucoup plus longue, hein, ça se compte en milliers, voire en dizaines de milliers d'années. Et comme la focale historique change, ben ça n'a pas les mêmes effets d'éclairage. Donc je pense qu'il faut être d'une certaine manière relativiste avec ça et accepter qu'il n'y a pas un absolu du commencement, mais qu'en même temps qu'on choisit un arc temporel, on ne fait pas ressortir les mêmes phénomènes. Voilà. Moi, les différentes thèses qu'il y a dans ce livre sont consubstantielles à l'arc historique que j'ai choisi de décrire. Et j'aurais fait ressortir des phénomènes différents si j'avais écrit la même histoire depuis 1945 ou depuis Platon. Mais bon, jamais je me serais risqué un truc pareil. Peut-être que d'autres le feraient. Voilà, donc c'est comme ça que je vois le problème, disons, chronologique.
En fait, une lecture en termes de continuité historique, ça peut donner l'impression que quelque part, tu isoles un commencement et qu'il y a quelque part une faute morale à un endroit qui se répercute. Et je pense que c'est un possible écueil de lecture qu'on peut avoir, effectivement, et qu'il faut absolument le désamorcer régulièrement. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que si tu avais pris quelque chose, peut-être une focale plus longue, les gens se seraient dit... C'est une thèse anthropologique, en fait, on est en train de décrire des mécanismes humains, généraux, etc. Donc finalement, la focale que tu choisis, ça peut soit induire une idée un peu anthropologique, soit une histoire d'une tâche morale qui serait à rattraper, quoi.
Alors, et en l'occurrence, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire peut-être qu'il y a dans mon livre, d'une manière ou d'une autre, des hypothèses d'ordre anthropologique un peu général. Mais c'est bien à ça que sert le premier chapitre du livre, à dénaturaliser l'idée qu'on se fait et de la liberté et de l'abondance. C'est-à-dire, par exemple, parfois on me fait l'objection, est-ce que l'abondance, en fait, c'est pas juste un truc relatif de la nature humaine, on a toujours envie d'avoir plus, c'est que l'homme est ainsi fait, vous voyez. Je ne pense pas que l'homme est ainsi fait, je pense que ça, au contraire, ça dépend de circonstances à la fois matérielles, idéologiques, pour dire même géopolitiques, hein, c'est pour ça aussi que je parle de Grotius, qui sont totalement contingente, et donc voilà, moi mon travail c'est plutôt de restituer une contingence que de créer de la fausse nécessité. Un autre exemple, j'ai récemment une conversation intéressante avec un collègue historien américain qui lui me dit non mais en fait, il est gentil, il m'a pas dit tu te trompes, mais c'est ce qu'il pensait, il me dit en fait le problème écologique, le problème climatique, il commence pas avant 1945, voire les années 70, parce qu'en fait, si tu regardes la courbe de Keeling, donc d'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, jusqu'en 45, voire 50, 55, la pente est douce. C'est-à-dire qu'en fait, si le monde avait continué sur ce régime de croissance-là, le problème climatique, on aurait commencé à l'apercevoir qu'en 2100 ou 2150. Or, comme il y a ce qu'on appelle la crosse de hockey, la grande accélération extraordinaire, en fait, dans plein de registres de l'activité économique, mais notamment le registre énergétique, l'impasse climatique, elle nous tombe dessus, là, maintenant, enfin, elle nous est même déjà tombée dessus depuis un petit bout de temps, mais parce qu'il y a eu, en fait, le déversement exubérant de pétrole dans l'économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale, relayé plus récemment par le rattrapage économique de la Chine, qui est aujourd'hui un émetteur de CO2 supérieur à l'Europe et les États-Unis additionnés, ce qui est quand même un truc fabuleux dans l'histoire de l'humanité. Donc il me dit en fait le problème, c'est pas tant un problème, c'est pas un problème qui date de l'Angleterre victorienne ou encore avant des plantations de Locke et tout ça, ok, mais c'est pas un problème climatique. Le problème climatique, il est ultra récent. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Donc, vous voyez, Moi, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, bon, peu importe, mais en tout cas, en posant le problème comme ça, il faisait ressortir des enjeux assez différents de ceux que moi j'ai fait ressortir, et qui, par exemple, sont un autre truc qui marche bien, enfin, qui est assez lu aujourd'hui, c'est, par exemple, les livres de Scott, hein, Against the Grain, enfin, qui a eu du succès aussi dans sa traduction française, qui là remonte beaucoup plus loin, au moment de domestication, de la formation des premières civilisations complexes, etc., et qui tend à nous dire, en fait, le problème, il est là, au moment de la domestication, etc. Bon, moi, pour le coup, c'est vraiment une thèse avec laquelle vraiment je suis pas du tout d'accord, mais voilà, c'est dans le champ aussi. Donc, voilà.
C'est deux formes d'histoire qui s'intéressent quand même du coup à la question de l'origine, parce qu'on a l'impression que dans ce refus de dire bah, ça remonte au XVIIe siècle, c'est qu'on se dispute un peu la question de l'origine.
Ouais, mais moi je pense qu'on devrait être plus serein avec ça. Et c'est des conversations que j'ai souvent eues, par exemple avec Jean-Baptiste Fressoz ou d'autres, qui dans leur travail d'historien font vraiment des efforts pour ne pas chercher l'origine du problème environnemental. On essaie juste de décrire des évolutions, l'évolution des rapports entre la conscience politique et la conscience écologique, enfin la conscience matérielle si on peut dire, hein, la conscience des échanges entre le groupe social et son milieu. Ces rapports-là existent depuis très longtemps, on peut dire, ils ont toujours existé, mais ce qui est intéressant c'est d'en décrire les formes, c'est pas de se donner de faire des théorisations absolutistes de tout ça. Voilà.
Alors, j'ai eu plusieurs commentaires me demandant, pour dire vite, qu'est-ce qui fait de Bookshin ? Parce que Bookshin, en ce moment, est très lu, et donc je pense que ça monte très vite au souvenir des gens que, effectivement, Bookshin s'est intéressé au concept d'abondance de manière très centrale, en tout cas au début, dans ses premiers écrits. Donc, pour rappel rapide, Bookshin, en fait, il s'est intéressé à une conception de l'abondance, mais une conception de l'abondance qui est assez différente de la tienne. Alors, dans son texte qui s'appelle « Au-delà de la rareté », qui est un texte ancien, du coup, l'auteur a une lecture qui est
ancien
assez...
Ancien à quel point ?
Ancien par rapport à ses productions.
Ouais.
Donc, c'est plutôt les débuts de ses productions.
Mais pour moi, c'est récent.
Ah, oui, mais ancien par rapport à son parcours
d'accord,
à lui.
D'accord.
En fait, on considère plus ou moins que Bookshin, à ses débuts, était un petit peu plus... optimiste que par la suite, et il a changé ses théories, et peut-être notamment celle-ci, en fait. Donc, un texte assez ancien de Bookchin, qui a une lecture qui est très optimiste des trajectoires des sociétés humaines. En fait, il dit qu'au XXe siècle, on est en train de dépasser le problème de la rareté, rareté signifiant à la fois une indigence matérielle, qui est mortifère, et des oppressions sociales. En fait, il lie la rareté et l'abondance la notion de la liberté, évidemment. Et pour lui, la sortie de la rareté qui a lieu au XXe siècle avec les évolutions technologiques qu'on a, parce qu'il est très intéressé par la technologie, pour lui, ça mène dans une situation d'abondance qui est donc libératrice. Jusque-là, c'est tout à fait ce que toi, tu essaies de déconstruire, justement, dans ce couple-là d'abondance-liberté. Mais en fait, si on pousse un peu jusqu'au bout, lui, il essaye de sauver le concept d'abondance, le couple abondance-liberté, mais au prix d'une redéfinition de l'abondance, parce qu'in fine, ça tombe aussi sur la définition de la liberté, puisque c'est un couple qui est pensé ensemble. Et en fait, pour Bookchin, si on décorrèle l'abondance de la notion de domination, on a vu que c'est partout dans ton livre, la question de l'exploitation des ressources et l'exploitation aussi d'autrui, si on enlève cette question de la domination de l'abondance, finalement, on peut arriver à une abondance qui est acceptable. Et du coup, est-ce que ça semble une hypothèse intéressante que de dire en fait si on enlève les contextes d'exploitation de l'abondance, finalement on peut arriver à une liberté et une abondance qui vont ensemble et ça nous sauve le couple à liberté-abondance et du coup ça permet de se rassurer sur l'idée qu'on va pas retomber dans une idée de rareté et de manque et on va plus avoir de quoi se nourrir, de quoi soigner, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse-là vraiment ?
Alors d'abord ce que je peux dire c'est que moi j'ignore tout du travail de la pensée de Bookchin. C'est pas un auteur que j'ai rencontré dans mes lectures. Bon, donc d'abord, tu m'apprends des choses et du coup, je vais essayer de le lire. Enfin, je vais le lire même. pas faire qu'essayer. D'ailleurs, moi, je pense qu'à l'avenir, je vais focaliser mon travail de recherche sur l'après-guerre, en fait, enfin, pour le coup, une période historique beaucoup plus resserrée entre 1945 et aujourd'hui. Donc là, à l'évidence, je rencontrerai Bookchin. Après, si je comprends bien ce que tu veux dire, Bookchin disait ce que disent en fait maintenant aussi une partie des décroissants, c'est-à-dire qu'en fait la véritable abondance, c'est celle qui s'émancipe de l'organisation marchande de l'économie, où en fait des groupes sociaux, enfin des communautés locales se réapproprient leurs conditions matérielles d'existence. Donc c'est en fait une conception autonomiste radicale de l'abondance. Bon, moi, j'ai aucune. Je me sens assez proche de ce type de conception. À cela près que l'usage que je fais du concept d'abondance dans le livre n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce n'était pas tant combien de biens matériels on a, de combien on dispose. Ce que j'appelle abondance, moi, enfin, ce que j'appelle abondance, c'est la capacité à la fois idéologique et matérielle. D'imaginer que les ressources sont illimitées, enfin qu'il y a une limitation de la sphère économique qui permet de concevoir le processus d'acquisition des libertés collectives comme quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la sphère matérielle. Mm-hmm. Abondance, c'est ça, tel que je la traite en tout cas. C'est pour ça que c'est lié à la fois à des idéologies économiques, à des circonstances géopolitiques, dans des rapports de force entre différents États, notamment impériaux. C'est pour ça que c'est lié à des conditions juridiques aussi, les formes de la propriété, etc., de l'accumulation par la propriété. C'est pas simplement, sortir de l'avilissement que constitue le besoin, la misère matérielle, etc. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Donc la proposition, si je comprends bien, autonomiste ou municipale, communaliste, comme on dit parfois, et qu'on attache, si je ne me trompe pas, souvent à Bookchin.
C'est plutôt municipaliste.
Voilà, municipaliste. Est très intéressante, c'est intéressant aussi parce que c'est une manière de réattacher l'autonomie à une certaine conception des rapports collectifs au milieu. Mais on pourrait dire, alors, et là, ce serait intéressant aussi par rapport au livre, parce qu'on pourrait me dire, mais quid de l'anarchisme ? Je parle du libéralisme, je parle du socialisme évidemment, un tout petit peu du conservatisme, pas l'anarchisme. Et c'est vrai, ça aussi, c'est un parent pauvre un peu du livre. On pourrait en fait faire une histoire environnementale des idées politiques anarchistes, qui serait tout à fait intéressante, parce qu'on peut défendre l'idée que c'est de ce côté-là qu'on trouve les propositions les plus radicales pour ne pas mettre les rapports collectifs à la nature sous pression marchande et on peut dire sous condition d'abondance quoi. C'est reclus, c'est des gens comme ça. Ça je ne l'ai pas incorporé au livre, mais là encore, venez vous inscrire en thèse avec moi sur une histoire environnementale de l'anarchisme, ça va être génial.
Dernière question, on sort un peu du cadre du livre, mais c'est plutôt par rapport à comment tu envisages toi-même ta propre place au niveau médiatique, on va dire. En fait, tu sais très bien que tes travaux, ils sont pris dans l'actualité écologique qui bouge beaucoup, qui est très sensible, et de jour en jour, il y a de plus en plus de sujets qui sont abordés dans la presse sur ça. Sur la crise environnementale. Et j'ai vu qu'à plusieurs occasions, tu avais pris la parole dans les médias, encore assez peu, relativement peu, mais et puis tu commentes souvent l'actualité sur Twitter. Est-ce que tu comptes accentuer cette présence-là et du coup te faire un peu un relais ou un médiateur de l'écologie politique telle qu'elle se fait à l'université? Est-ce que tu comptes prendre plus de place médiatiquement ou est-ce que c'est juste un petit passage pour faire de la publicité pour ton livre peut-être? Ou est-ce que vraiment ça te semble important maintenant de vraiment prendre plus de place?
Alors, il y a une chose qui est fascinante quand même quand on travaille. C'est que moi, ce livre, je l'ai écrit... Dans la pénombre de la BNF, dans des séminaires de l'école des hautes études, vraiment dans les dans les coulisses, quoi. C'est-à-dire, on fait notre petit travail. J'ai écrit ça en suivant les principes méthodologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Honnêtement, sans vraiment me poser la question de sa pertinence dans le débat public, le fait d'avoir fait des études de philosophie produit chez nous un schéma mental extrêmement scolastique, avec les aspects positifs et négatifs. Hein. Donc, ce n'est pas du tout des questions que je me posais il y a encore un an et demi. Et donc après, c'est fascinant de voir que les idées ont leur vie sociale à elles. Et quand même, en assez large partie, j'ai subi, quand je dis subi, ça ne veut pas dire que c'est une souffrance, ça veut dire que j'ai répondu à des sollicitations qui voyaient dans mon travail des propositions politiques qu'on pouvait prendre au sérieux. Et en gros, on m'a demandé d'assumer ce que je disais, en fait. Ça a commencé quand j'ai fait un entretien avec les amis de la revue Ballast, c'était en 2018, fin 2018, septembre 2018, je crois. Un entretien assez long et la personne avec qui j'ai fait l'entretien avait super bien préparé les questions et m'a fait sortir des choses que peut-être j'aurais pas sorties dans d'autres conditions. Mon travail il a toujours eu le versant, disons, académique, la recherche, et puis maintenant il a aussi ce versant public, on peut dire, quoi. Alors c'est une bonne chose, mais c'est pas toujours facile d'assumer. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'assumer, peut-être un peu trop, je ne sais pas, peut-être je suis un peu naïf. Puisqu'après ça, des organisations politiques sont venues me chercher avec la même question, c'est-à-dire aidez-nous en fait, aidez-nous à construire, par exemple, Europe Écologie et Verts, on vient me chercher, en gros, avec l'idée qu'ils ont, depuis 10-15 ans, pas été suffisamment attentifs à ce que faisaient les chercheurs et qu'ils avaient en gros gardé le référentiel Gors, mais que peut-être ils pouvaient essayer de, si ce n'est d'en changer, en tout cas de le faire un petit peu évoluer. D'autres organisations. Il y a aussi des aspects invisibles de ce travail, enfin invisibles pour le public de ce travail-là, avec des ONG, des choses comme ça. Donc moi, je réponds à ce genre de sollicitations. Aussi parce que je pense que c'est important pour un chercheur de ne pas naviguer que dans le milieu un peu endogène, voire endogame de la recherche, de l'université. C'est important d'aller parler avec d'autres publics. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec toi aussi, d'autres supports, d'autres manières de parler. Après, voilà, il faut accepter que nos idées, ce que je disais au début, vivent leur propre vie, c'est-à-dire qu'on contrôle plus entièrement ce qu'elles deviennent. Voilà, donc c'est assez intéressant, mais pour reprendre ce que tu disais à la fin de ta question, oui, ça va se calmer, s'arrêter, je sais pas, enfin bon, ça va se calmer. Là, à partir de maintenant, je vais me retrancher à nouveau dans mes bibliothèques, dans mes lieux de recherche, dans les séminaires, m'occuper de mes étudiants, et puis je réapparaîtrai peut-être dans quelques années, ou pas. mais voilà, par ailleurs, le travail de, on peut dire, de... Moi, j'estime aussi que je dois réaliser un travail d'évangélisation des hauts fonctionnaires ou des ingénieurs ou des gens comme ça. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élites soient les moins mauvaises possibles et qu'elles, si possible, qu'elles aient la conscience des enjeux écologiques et climatiques. C'est pour ça que j'ai écrit un chapitre dans le livre sur Saint-Simon, sur Veblen, c'est-à-dire ce que Saint-Simon appelait pas encore, mais ce que Veblen appelait la technocratie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait donc le Kratos, des élites au fait de ce que fait la technique à la liberté, en fait. Donc il y a cet aspect-là aussi des choses qui est, lui, souterrain, mais ça fait partie des responsabilités des intellectuels, même si c'est un terme pas très... Donc voilà, donc j'ai découvert tardivement que les idées avaient une vie sociale qui échappait à celle de leur auteur. Et c'est assez intéressant.
Est-ce que tu considères qu'il y a une dimension un peu programmatique à la fin de ton livre, peut-être, ou même à la manière dont tu le construis ?
Non, alors programmatique, c'est vraiment pas un terme que j'emploierais. Parce que j'essaie de le dire un petit peu à la toute fin du livre, mais c'est peut-être pas très clair. Je voudrais surtout pas que ce livre soit conçu comme un programme, et encore moins comme vous savez, le coup du philosophe qui dit ce qu'il faut penser, qui dit ce qu'il faut faire. Je Je me garderais bien de faire des hypothèses trop fermes sur la forme que vont prendre, enfin que va prendre le contre-mouvement écologique, sur les leviers d'action qui vont être employés pour faire passer les demandes de justice climatique, pour les faire gagner. Je pense que les mouvements sociaux, les transformations politiques ont leur logique propre, qui n'est pas une logique, en fait, qui n'est pas celle de la déduction philosophique. Voilà, une enquête philosophique, c'est un truc très particulier. On aboutit à des conclusions, mais si on regarde par exemple, par exemple le réemploi de Laclos et Mouffe par la gauche radicale contemporaine, ça donne pas forcément envie d'être investi comme un penseur à programme. Alors, je pense pas que ça m'arrivera, mais voilà, c'est quelque chose à quoi Thompson, l'historien, m'a rendu sensible dans le livre où il se moque d'Althusser et du marxisme dogmatique qui explique aux masses ce que doit être la lutte des classes. Vraiment, j'espère vraiment ne jamais tomber dans ce rapport purement idéaliste en fait aux rapports sociaux. Donc moi, j'essaie simplement de donner mes éclairages sur la nature de l'impasse dans laquelle on se trouve. Mais la construction sociopolitique du contre-mouvement, c'est pas les philosophes qui vont la décider. Donc je peux aider des organisations politiques, je peux aider des ONG, je peux aider certains membres de la fonction publique ou des choses comme ça, en discutant avec eux. Je peux débattre avec Ballast, avec des journaux de la gauche radicale comme ça, parce que c'est très intéressant. Mais c'est pas, je veux pas du tout être le ni la mascotte de ça, ni rien.
Peut-être juste un programme de lecture.
Ouais, voilà. Et ce serait déjà bien, en fait. C'est déjà bien, ouais, exactement.
Mais c'est un programme de lecture dans le sens où les conclusions que tu amènes à la fin du livre, c'est que c'est ça qu'il faut lire, en fait, s'il vous plaît. Faites ce devoir-là. Ouais. Et en fait, peut-être plutôt dans le début de l'ouvrage, comme tu t'intéresses aux constructions juridiques, on a l'impression que peut-être, quelque part, il y a des prises aussi qui peuvent être accaparées, je ne sais pas, par des politiques ou par des juristes, ouais, etc., qui se disent « Ah, effectivement, il y a une manière de penser. » Il faudrait peut-être aller voir dans la philosophie du droit ce qui se passe, par ailleurs, actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... Tu dévoiles des prises qui ne sont pas si difficiles à trouver que ça, au final, même si, et justement, ce n'est pas des programmes au sens « faites ci, ça, ça », mais... Oui, programme de lecture, programme d'étude.
Non, mais c'est, tu le dis très bien, c'est attirer l'attention des gens sur des aspects du problème que peut-être ils n'avaient pas vu ou qu'ils n'avaient pas vu sous cet angle. Et effectivement, ça m'arrive du coup maintenant, de temps en temps, quand des personnalités politiques ou lisent mon livre et m'écrivent pour m'en parler, si elles me disent ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire, j'avais pas vu tout à fait les choses sous cet angle, et il y a des prises là, bon, je pense que quelque chose est passé à ce moment-là. Mais ça ne constitue pas un programme, évidemment.
Et tu avais pour but, quand tu as conclu ton HDR, tu voulais la publier ou c'était pas un truc que tu avais prévu?
C'est le contraire, en fait. Moi, j'ai commencé à écrire un livre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, autant faire une habilitation avec ça. Mais ça, bon, les gens peut-être qui regardent la vidéo savent à peine ce que c'est qu'une habilitation parce que c'est vraiment de la cuisine interne du monde académique. Donc en fait, c'est le contraire. J'avais envie d'écrire un livre, je l'ai écrit. Puis à mi-chemin, je me suis dit, ou on m'a dit, bah attends, passe ton habilitation avec ça.
Voilà. Ok, donc c'était conçu comme un ouvrage à destination oui. de...
Alors ça, vraiment, ça a été un... C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de conversations avec ça, avec mon épouse, par exemple, qui n'est pas universitaire, hein, qui est enseignante, mais moi, il m'arrivait de lui dire... Je vais essayer d'écrire un livre qui n'est pas seulement pour les universitaires. Et puis, me disait toujours, mais tu ne te rends pas compte. Moi, je te lis, c'est très compliqué. C'est un langage qui est propre au monde universitaire. Et elle a eu raison de m'inciter à la prudence de ce point de vue-là. Donc, du coup, le résultat final, c'est que c'est un livre à deux pots, en fait. Il y a les médias, par exemple, ont bien compris l'espèce de pitch général du livre, elles ont généralement dans les articles de presse bien restitué, abondance, liberté, comment elles sont couplées, comment elles sont découplées. Ce truc-là aisément compréhensible, je pense assez aisément compréhensible et aisément transmissible. Et puis il y a la seconde peau, qui est celle que tu as reprise dans la première vidéo que tu as faite, avec toutes les étapes historiques, comment la question du libéralisme est prise en charge, du socialisme, toutes ces questions de symétrisation, comment les savoirs politiques sont impliqués dans cette histoire. Vraiment, pour le coup, là, vraiment le débat plus technique avec mes collègues philosophes, avec mes collègues historiens, économistes, etc. Donc ça, c'est la seconde peau du livre. Elle, évidemment, elle est plus difficile à restituer dans la sphère médiatique. Mais c'est ça qui constitue l'intérêt principal pour les gens à l'université, pour les étudiants, etc.